1944, le gouvernement de Vichy s'enfuit en Allemagne, au château de Sigmaringen. Pierre Assouline raconte dans son nouveau roman comment se joua là, entre passion et trahison, le destin de Pétain, de Laval et d'un millier de collaborateurs français. Un épisode méconnu de notre histoire à découvrir dans Sigmaringen, le nouveau roman de Pierre Assouline, aux éditions Gallimard.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 12 février prochain sort en salle le film de Christophe Gans, La Belle et la Bête, avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. Un film adapté du conte bien connu et qui remonte au XVIIIe siècle. De quoi retenir l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Tout est là, précisément. On connaît bien sûr le conte de Madame le Prince de Beaumont, que Jean Cocteau avait mis en image à la Libération. Je vais en parler dans un instant. Christophe Gans, lui, est remonté un peu plus haut au conte original signé Madame de Villeneuve. Il est avec nous, Christophe Gans, dans ce studio. De même que notre monsieur cinéma, Bruno Kras.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Romain, posée sur le site internet d'Europe 1. Romain de Dijon voudrait savoir d'où vient la tradition de faire des crêpes à la Chandeleur.
Ah oui, c'est le moment de poser la question, hein, puisque la Chandeleur, c'est dimanche. En attendant, je vous propose de retrouver tout de suite Jean Marais et Josette Day sur le tournage de La Belle et la Bête.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Jean Cocteau aimait d'amour le cinéma, mais il y est venu un peu tard. Je vous l'avais raconté il y a quelque temps. Il y est venu sur la pointe des pieds, en polygraphe de génie, à la lyre duquel aurait manqué une corde. La Belle et la Bête n'est jamais que son deuxième film, d'où son intense fraîcheur sans doute, mais d'où aussi ses imperfections qui, avec le temps, ont fini par faire tout le prix de cette œuvre. On est 15 ans après son premier film, son moyen-métrage surréaliste, Le sang d'un poète, c'était en 1930, et il raconte l'aventure de ce film dans son journal, ce qui nous permet de savoir quasiment au jour le jour comment s'est passé le tournage de cette œuvre devenue mythique. Il y a évidemment chez Cocteau un véritable sens de la communication, puisque avec la plaquette de presse sortiront des extraits du journal, c'est-à-dire que, un peu comme on le fait aujourd'hui, les journalistes savent au moment même où sort le film en 1946, comment il avait été conçu. Tout a commencé au début des années 1940, on est en pleine occupation, quand Cocteau relit un livre qui a marqué son enfance, un conte de Madame le Prince de Beaumont, conte publié en 1757 dans la célèbre bibliothèque, enfin republié depuis dans la célèbre Bibliothèque Rose. Le titre du conte, c'est évidemment La Belle et la Bête. Alors, nous allons voir que ce conte lui-même s'inspire d'un autre, un peu plus ancien, de Madame de Villeneuve, mais ça, Cocteau ne s'en occupe pas. Il a le souvenir du conte pour enfants, du conte ramassé de Madame le Prince de Beaumont. « J'étais fasciné, dit-il, par la Belle et la Bête qui voisinait avec Perrault sous la couverture rouge et or. J'y trouvais naturel ce qu'il y avait de surnaturel. » Je pense qu'on peut s'arrêter à cette remarque. « J'y trouvais naturel ce qu'il y avait de surnaturel. » Est-ce à dire que pour Cocteau, la magie faisait partie du quotidien, probablement, d'une certaine manière. Le conte met en avant ce rapport entre laideur et beauté, non seulement sur un plan physique bien sûr, mais aussi sur un plan moral. Il oppose des personnages doubles dans lesquels identité physique et morale ne s'articulent pas d'une certaine manière. Les deux sœurs de Belle ont le physique, ont le comportement de deux princesses, mais elles sont au fond profondément égoïstes, paresseuses, jalouses. Quant à la Bête, elle se trouve pourvue d'un physique a priori monstrueux, mais on sait qu'au fond, elle n'est que tendresse, générosité, bonté. Le conflit moral se cristallise autour de cette bête, recluse dans son château, prisonnière d'un châtiment magique, et qui ne peut espérer retrouver son apparence humaine que si quelqu'un vient à tomber amoureux d'elle. Ça, évidemment, on peut imaginer à quel point ça pouvait parler à Cocteau. Avec, pour morale en suspens, si l'on peut dire, pour interrogation de fond, cette question: peut-on, doit-on aimer quelqu'un en dépit de sa laideur physique? Nous reviendrons évidemment sur ce que cette question nous apprend des dames qui l'ont posée et de leur époque. Assez vite, Cocteau dit qu'il a eu envie de faire un spectacle de ce conte. Il l'imagine même en film. C'est une merveille et rien qu'à le lire, les idées d'un film m'arrivent en foule, écrit-il. Ai-je besoin de vous redire qui était Cocteau? Nous lui avons consacré une émission entière en octobre dernier à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Ce romancier, ce dramaturge, ce plasticien, ce dessinateur, ce peintre, ce poète, tout simplement, au sens grec du terme. Poiein en grec, c'est fabriquer, créer. Cocteau, c'est le poète, c'est le créateur. Il ne fait d'ailleurs pas de cinéma, il fait, dit-il, du cinématographe, car il a toujours répugné à cette abréviation. Ce que Cocteau disait du cinématographe, c'est un fantôme qui vous tient étroitement d'entre des bras terribles et ne vous lâche plus. Sa première idée, disons-le, avait été d'adapter le conte pour le théâtre. Et après le théâtre, il avait même pensé en faire, pourquoi pas, une pantomime. Mais finalement, il décide d'en faire un film. Voilà ce qu'il dira dans une interview au Spectateur en juin 1946. « Ce conte, je voulais le dessiner, le peindre, le porter à la scène. En fin de compte, le cinématographe m'a paru comme la seule machine capable de donner corps à mon rêve. » La machine, et c'est bien un peu au sens de Vigarani, au sens des machineries de théâtre du XVIIIe siècle, c'est un peu l'impression qu'on a effectivement lorsqu'on voit le film qui commence, si l'on peut dire, dont le processus commence en tout cas en 1943. Il faut savoir que la Gaumont d'abord avait été passionnée par le projet. Les gens de la Gaumont ont dit oui et puis se sont désengagés. Je cite le journal de Cocteau. La Gaumont, après m'avoir supplié de venir chez eux, d'y tourner La Belle et la Bête, après m'avoir approuvé, aidé, encouragé, après les contrats en règle et à 2 mois du travail, m'annonce qu'ils ne peuvent faire le film et entrer en lutte contre la volonté de leur conseil. Il y a eu comme ça pas mal de faux départs, si l'on peut dire, sur ce tournage. Il faut savoir qu'au départ, l'œuvre devait être co-signée par Cocteau et Pagnol. En mars 1944, tous deux avaient donné leur accord avec cette seule condition que les acteurs principaux soient, j'allais dire, du côté de Cocteau, Jean Marais, et du côté de Pagnol, Josette Day. Les contrats avaient été signés rapidement, et puis très vite, Pagnol a rompu son contrat. Pour quelle raison? Oh, pour une raison toute simple, il avait quitté Josette Day pour Jacqueline Bouvier. Elle n'en restera pas moins dans le projet définitif, celle qui va interpréter, qui va immortaliser Belle à l'écran. Le projet va prendre vie grâce au producteur André Pauvé. Pauvé, c'est vraiment, on peut dire qu'il est synonyme de qualité française dans cette période de l'occupation ou de la libération. Et le moins qu'on puisse dire cette fois, c'est que la qualité française va être complètement transcendée par ce que le poète fait du film.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale de La Belle et la Bête, le film de Jean Cocteau sorti en 1946. C'est également le sujet de votre récit, Franck.
espagnole partie, Cocteau écrit donc seul. Le premier manuscrit, il va l'offrir à Marcel Bertrou, qui était son directeur de production. Et il figure aujourd'hui, ce manuscrit, j'ai eu la chance de pouvoir le voir de près, il figure dans les collections du Musée des Lettres et des Manuscrits de Paris. Il est d'ailleurs classé trésor national. On voit Cocteau couper, modifier, ajouter un personnage. Il travaille évidemment sur le conte original. Il est passionnant, ce manuscrit, d'autant plus que lorsque vous regardez la colonne de droite, celle où figurent les dialogues, puisque vous avez dans la colonne de gauche, évidemment, toutes les, ce qu'on appelle les didascalies, les indications narratives et techniques. Lorsque vous relisez les dialogues, vous vous rendez compte qu'ils sont extrêmement proches de ceux qu'on entend lorsqu'on assiste à la projection. C'est-à-dire que Cocteau est resté, de ce point de vue, extrêmement fidèle à son dialogue. Il a sa propre idée de la bête. Voilà ce qu'il dit. La bête, il faudrait le dire avec l'accent de l'époque de Josette Day, la bête, comme elle disait, est un seigneur en grand costume de cour qui n'a d'une bête que la tête et les mains. La tête est celle d'un magnifique animal, sorte de lion ou de cerf aux yeux clairs, au bois en forme de candélabre, son mufle miroite au soleil, elle parle comme un être humain, les mains sont des mains d'homme velues et armées de griffes, la chemise ouverte laisse voir une toison sombre. Ce que n'avait peut-être pas prévu Cocteau, quoique si, forcément, puisqu'il savait bien à qui il allait confier le rôle, c'était la voix de Jean Marais, et voilà ce que, bien entendu, incarné par Jean Marais, la bête devient pour nous.
Belle, il ne faut pas me regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais, sauf chaque soir à 7 heures, où vous dînerez et où je viendrai dans la grande salle. Il ne faut pas me regarder dans les yeux.
Alors on n'a plus idée de l'incroyable équipe qui était là réunie par Cocteau. Il avait quand même le réalisateur René Clément comme conseiller technique. Les lumières sont signées Henri Alcan. Les décors sont de Christian Bérard. Christian Bérard, le plus grand styliste de son temps. Et il y a même parmi les costumiers un certain Pierre Cardin qui travaillait sous la houlette de Christian Bérard. J'ai eu l'occasion à ce même micro d'interviewer Pierre Cardin qui nous racontait justement sa collaboration avec Jean Cocteau dans cette affaire. Il raconte qu'il, à plusieurs reprises, il a même mis le costume de Jean Marais et il y a des scènes que l'on voit à l'écran qui sont des scènes où la bête ne parle pas et qui sont en vérité interprétées par Pierre Cardin. Ça, c'est vraiment pour la petite histoire. Et alors, les acteurs, bien entendu, j'ai parlé de Josette Day et le rôle masculin qui est dans la version que propose Jean Cocteau. Et nous allons voir que, évidemment, c'est très différent dans ce que vient de faire Christophe Gans. Mais en tout cas, dans la version de Cocteau, le rôle principal, c'est le rôle de la bête. Et c'est donc Jean Marais qui, à l'époque, était mobilisé. Il a donc fallu que Cocteau obtienne du général Leclerc une permission spéciale pour que l'acteur puisse tourner. Et d'ailleurs, il était contraint entre deux tournages d'aller signer sa feuille de présence à l'école militaire. Pour la mise en scène, Cocteau s'est inspiré de ses connaissances picturales qui étaient infinies, vous le savez. On peut dire que toute la partie réaliste du film, ce qui se passe dans la famille de Belle, est inspirée de l'école flamande. Il y a même des scènes qui sont directement inspirées de certains tableaux de Vermeer. Et puis, dès qu'on entre dans le palais fantastique de la bête, alors là, c'est plutôt le dessin à l'encre du 19e siècle qui prend le dessus, et notamment le grand illustrateur Gustave Doré, dont Cocteau s'est ouvertement inspiré, bien entendu. Il a beaucoup joué dans tout ça, des illusions, évidemment, avec des effets tout simples, des effets élémentaires, qui sont d'ailleurs tout à fait semblables à ce que pouvait faire un Georges Méliès, par exemple, mais qui, précisément par leur simplicité, par leur caractère assumé, ont un côté éblouissant. C'est vrai qu'on est frappé par ces effets tout simples, et notamment par, vous savez, je pense toujours aux candélabres, hein, qui sont tenus par de véritables bras humain, je pense aux cariatides vivantes, etc. Puis à cette scène finale où on voit la belle et la bête s'envoler, c'était simplement, il les a fait sauter d'un podium assez haut et il a mis l'image à l'envers. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a des effets de ralenti aussi qui sont très présents. Et puis bien sûr, ces costumes extraordinaires, ce masque de la bête créé par le perruquier Pontet. Chaque poil était monté sur une toile de tulle divisée en 3 parties qu'on collait directement sur le visage du comédien. Il y avait un travail de maquillage considérable. C'est Bérard lui même bien sûr, qui avait dessiné ce masque initialement. Jean Marais, au départ, selon les indications de Jean Cocteau d'ailleurs, imaginait un masque de cerf. Il voulait une tête de cerf avec de grands bois comme ça, en forme de candélabre, disait Cocteau. Et c'est Christian Bérard qui les a convaincus qu'en fait la bête devait effrayer et qu'un herbivore, si majestueux soit-il, ne serait jamais vraiment effrayant. Il fallait un carnivore, il fallait en quelque sorte une bête qui ait quelque chose de félin, de léonin. Le maquillage, c'était 3 heures pour le visage, 1 heure pour chaque main. Alors, évidemment, on maquillait les 2 mains en même temps. Et certaines dents de Jean Marais étaient recouvertes de vernis noir pour leur donner un aspect pointu. Les canines étaient pourvues de crocs tenus par des crochets en or que Jean Cocteau avait fait faire spécialement. Et l'on dit que pendant le tournage, évidemment, Jean Marais n'avait le choix pour se nourrir qu'entre les purées et les compotes, bien entendu, puisqu'il ne pouvait quasiment pas se nourrir normalement. Alors, tout ce qui est la première partie, on va dire, du film est tournée dans un manoir près de Tours. La seconde partie est tournée dans le somptueux château de Raret, alors dont malheureusement le château de Raret qui se trouve près de Senlis. Vous pouvez y aller d'ailleurs voir le château de Raret. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la galerie cynégétique, c'est-à-dire ces grands murs qui sont surmontés de sculptures de chiens de chasse notamment et de cerfs. Et l'on voit d'ailleurs, il y a cette scène extraordinaire où l'on voit la bête qui avance au milieu de ces statues. En fait, les statues sont de la fin du XVIIe siècle, mais on les dirait créées par Jean Cocteau.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur La Belle et la Bête, le film de Jean Cocteau.
Le tournage de ce film, même s'il se passe dans l'atmosphère évidemment très fébrile et pleine de joie de la libération, ce tournage est très difficile. Voilà ce que dira Jean Marais dans une interview de 1968. Le tournage de La Belle et la Bête a été une vraie tragédie, dira Marais, parce qu'il, c'est-à-dire Jean Cocteau, a failli mourir pendant le film. Il a eu une maladie très très grave. Les médecins m'ont téléphoné en me disant que s'il ne s'interrompait pas, il risquait la mort en 48 heures. Alors on l'a mis à l'hôpital Pasteur, dans une cage de verre pendant 3 semaines, et il a repris le film après. Le courage de cet homme était fantastique, car le moindre projecteur lui faisait mal. Il travaillait avec un chapeau sur lequel il avait mis du papier noir de photographe attaché avec des épingles à linge et 2 trous pour les yeux, afin de ne pas souffrir de ses projecteurs. Il ne pouvait plus se raser, il avait donc la barbe qui lui poussait, et malgré cette souffrance horrible de chaque seconde, il donnait une atmosphère sur le plateau de gentillesse, de drôlerie. Il cherchait toujours à mettre tous les techniciens, tous les acteurs dans la bonne humeur, et à moi il disait « Tu vois, je te couvre de poils, et pour me punir, le bon Dieu me rend l'appareil. Je suis moi-même couvert de poils. » Et oui, puisqu'il avait cette barbe qui peu à peu lui dévorait le visage. On a d'ailleurs dans le film une réplique qui fait peut-être allusion, une allusion plus ou moins directe à ce qui s'est passé, c'est quand la bête, vous savez, se détourne de la belle et dit « Vite, fermez votre porte, votre regard me brûle les yeux, je ne supporte pas votre regard. » Ou la façon de transcender le mal pour en faire l'une des plus jolies répliques du cinéma français. C'est difficile, effectivement, ce tournage. Il suffit de feuilleter le journal de Jean Cocteau pour s'en rendre compte. Le 27 août 1945, il écrit « Le décor est de ceux que je suis obligé de faire de mes propres mains et où personne ne peut me venir en aide. En outre, les perches pliaient, les fils ne parvenaient pas à se tendre, les draps étaient trop courts et trop peu nombreux. » Enfin, c'est compliqué. Le lendemain, il dit « Je dois m'occuper de tout, épingler le linge, nouer les perches, trouver les volailles et les pousser moi-même dans le décor, construire les ruelles de draps et tendre les découvertes. On n'imagine pas ce que c'est en 1945 de louer 12 draps supplémentaires. Roger Rogelis, le régisseur, m'en découvre 9 à grand-peine, j'en avais 6. » Et encore le lendemain, 29 août, par un esprit de contradiction instinctif, j'évite les mouvements d'appareil tellement à la mode et que les spécialistes estiment indispensables. J'ai beaucoup de mal à faire comprendre aux artistes que le style du film exige un relief et un manque de naturel surnaturel. Il faudrait surtout pas confondre ça avec du théâtre filmé, car effectivement c'est vraiment différent. Mais il y a la volonté chez Cocteau de pousser le jeu des acteurs et de pousser même tout simplement sa mise en scène pour faire échapper ce qu'on a sous les yeux à la réalité et à l'ordinaire. C'est peut-être aussi l'un des secrets de cette œuvre prenante, bien entendu. La première a lieu le 1er juin 1946, première projection privée, et c'est Cocteau qui raconte encore. J'assistais au film en tenant la main de Marlène. Marlène, c'est Marlène Dietrich, évidemment. Et je la broyais sans m'en apercevoir. Le film se dévidait, gravitait, étincelait en dehors de moi, solitaire, insensible, lointain comme un astre. Il m'avait tué, il me rejetait et vivait de sa propre vie. Et c'est vrai que ce film, en tout cas pour Jean Cocteau, c'est comme ça qu'il l'a vécu lui, c'est comme ça qu'une partie non négligeable de l'équipe l'a vécu et en a parlé par la suite. Ce film était un peu un film maudit. Et en même temps, c'est un succès, c'est un très grand succès. La sortie dans les salles a lieu à la fin d'octobre 1946. Il faut se remettre évidemment dans l'état d'esprit de l'époque. On est en pleine pénurie, on sort de cette guerre, mais on sort aussi de... On est encore dans les privations. Il ne faut pas oublier que les tickets de rationnement ne s'arrêteront que 7-8 mois plus tard. Et La Belle et la Bête, c'est une sorte de fer qui passe sur le linge, comme aurait dit Giraudoux. C'est un moyen pour les Français d'oublier tout simplement leur quotidien. 3 700 000 spectateurs au moment de la sortie. À l'époque, c'était vraiment considérable. Et même si certaines critiques se sont manifestées, on dit qu'on n'a pas retrouvé toute la magie du conte, on reproche à Cocteau des longueurs, enfin, etc. Le succès n'en est pas moins extraordinaire. Le film va remporter aussi le prix Louis Deluc, l'une des plus importantes récompenses pour le cinéma français. Il est sélectionné en septembre 1946 pour le premier festival de Cannes, mais il ne sera pas récompensé à Cannes. Et dans les 50 films que le British Film Institute choisit et estime qu'il faut avoir vu avant d'avoir 14 ans, eh bien, ce film vient dans les 10 premiers, voyez-vous. Après La Belle et la Bête, Cocteau ne cessera désormais plus de faire de cinématographe. Il est à la fois scénariste, dialoguiste, adaptateur. Il est lui-même d'ailleurs théoricien du cinéma et son propre critique. Ça va jouer un rôle dans la carrière de Christophe Gans qui va nous raconter ça dans un instant. La Belle et la Bête a fait l'objet de pas mal d'adaptations, évidemment. Le film de Edward Kahn, celui de George C. Scott en 62. Il y a eu des téléfilms. Il y a eu bien sûr le célèbre dessin animé des studios Disney, devenu une comédie musicale à très grand succès. Un succès, on peut dire, planétaire. Et puis... Et j'ai envie de dire enfin, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, l'adaptation que vient d'en donner Christophe Gans avec un film qui s'inspire évidemment toujours de ce conte La Belle et la Bête, mais ce n'est plus le conte de Madame le Prince de Beaumont, c'est le conte de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, écrit donc 17 ans plus tôt, qui est beaucoup plus étoffé et qui, si je puis dire, va voir les choses beaucoup plus en profondeur. Bonjour Christophe Gans, merci infiniment d'être notre invité aujourd'hui, notre invité d'honneur. Nous sommes très fiers que vous soyez là. On va parler un tout petit peu de Cocteau et beaucoup de vous et de votre film. Et puis, je suis ravi que Bruno Grasse soit avec nous. Vous avez vu ce film et vous allez nous en parler tout de suite, Bruno, dans un tout petit instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La Belle et la Bête. Sachez que l'ensemble des émissions d'Europe 1 se mobilisent pour vous faire découvrir ce très beau film dont nous sommes partenaires, qui sort en salle le 12 février prochain. Et Franck Ferrand en parle cet après-midi avec le réalisateur du film Christophe Gans et Monsieur Cinéma, notre Monsieur Cinéma d'Europe 1, Bruno Grasse.
Je ne vais pas vous demander, Bruno Grasse, de nous faire la critique du film en présence de Christophe Gans. Je ne voudrais pas du tout avoir de vous donner le sentiment de vous forcer la main dans les compliments. Simplement, c'est quand même une extraordinaire fresque qui nous est offerte.
C'est vrai, et en vous écoutant, Franck, je pensais à cette phrase de Cocteau qui disait « La seule machine capable, en parlant du cinéma, et presque 70 ans après, la seule machine capable,
reste,
c'est encore le cinéma. » Avec, c'est ce qui est très beau dans le film de Christophe Gans, avec maintenant les effets spéciaux qui sont vraiment là au service de l'histoire et du conte. Parce que ils ne sont pas visibles, ils sont magiques.
On n'a pas de 3D et de choses de ce genre, il
non,
faut dire.
En plus, hein. J'ai trouvé ça assez courageux de la part de Christophe Gans, à une époque où pour moi la 3D est un peu une prothèse de l'imagination, que lui, il décide de nous laisser rêver, parce que le film est assez merveilleux, les images sont assez belles comme ça, sans que vraiment on ait besoin de 3D. D'ailleurs, moi j'ai vu le film il y a une dizaine de jours, et quand je m'en souviens, évidemment, je m'en souviens en 3D. Hein, le cerveau humain est fait pour ça. Donc, c'est une très belle histoire. C'est vrai qu'on replonge dans les détails de l'histoire, puisque alors que chez Cocteau, ça n'est qu'évoqué, ben là, on va voir le père de Belle, joué par André Dusselier. On va voir toute l'histoire. Et je ne vais pas vous refaire, parce que c'est quand même proche du conte, mais avec la couleur, avec les effets spéciaux, avec
les contrastes absolument
tout ce que peut donner le numérique, parce qu'il faut expliquer, Christophe l'expliquera tout à l'heure, que une partie des décors a été vraiment fabriquée et l'autre a été prolongée grâce à l'image de synthèse, ce qui permet au réalisateur de faire un univers totalement merveilleux avec des décors fabuleux et puis aussi avec des forêts qui bougent, des tas de trucs comme le faisait Méliès. D'ailleurs, on repense à la magie de Méliès quand on voit un film comme ça. Et c'est vrai que c'est très très beau. Et puis, alors là, j'ai revu, Franck, exprès le film de Cocteau, qui a peut-être sa magie, mais moi je vais pas être langue de bois. Moi je vais pas faire comme certains qui vont dire, parce qu'ils sont cinéphiliquement corrects, ah oui, mais il y avait Cocteau.
Chef-d'œuvre absolu.
Moi, en cas, je l'ai vu tout à l'heure, ça a quand même beaucoup vieilli.
C'est vrai.
C'est vrai que la magie qui a été fabriquée par Cocteau à l'époque est géniale. Mais en même temps, ça a beaucoup vieilli. Et surtout, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film de Christophe, avec un Vincent Cassel viril et naturel et extrêmement sobre, une Léa Seydoux très belle. Là, franchement, les acteurs surjouent. Et je me souviens de la première fiancée de Pagnol dans Marius, dont j'ai oublié le nom.
Orane de Mazis,
qui disait « Marius !» Ben là, on a un peu « Oh la bête !» Et Jean Marais fait un peu « Ne me regardez pas dans les yeux. » Et c'est vrai que ça vieillit. Donc, vous pouvez mettre Cocteau un petit peu de côté et aller voir sans hésiter le film de Christophe Gans.
Et c'est vrai que dans le film de Cocteau, je disais que la bête jouait un rôle, envahissait littéralement l'écran avec Jean Marais et que Josette Day passait vraiment au deuxième plan. Là, Léa Seydoux est particulièrement bien servie, on peut dire.
Vrai, hein,
et Vincent
belle,
Cassel
hein,
lui laisse la place.
C'est la belle et la bête. Oui. Et elle est au cœur de l'histoire, elle est belle. La bête qui, encore une fois, est maquillée, mais tous ces détails, Christophe les donnera tout à l'heure, de façon assez sobre quand même, et dont on perçoit plus, je trouve, l'élégance et le charme à travers Vincent Cassel couvert de poils qu'à travers Jean Marais couvert de poils, qui a un peu une tête de chat un peu rigolote, et il faut faire un effort pour lui trouver du charme.
Alors, on peut dire que pour en finir au moins momentanément avec le film de Cocteau, vous avez vous-même, Christophe Gans, été influencé par Cocteau et par ce qu'il disait du cinéma.
Absolument. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, j'étais encore très jeune, j'avais même pas 10 ans. Et les deux premiers livres sur le cinéma que j'ai lus, c'est d'une part le Hitchcock-Truffaut.
Oui, magnifique.
Évidemment. Et
Leçon de cinéma qu'Hitchcock
absolument.
Donne à Truffaut en racontant tous ses films l'un après l'autre.
Voilà, ce qui évidemment ne pouvait être que frappant pour un enfant. Et évidemment, un autre livre frappant pour un enfant, c'était les écrits sur le cinéma de Jean Cocteau, dans lequel Jean Cocteau, en fait, explique comment il était parvenu à faire La Belle et la Bête et Orphée, qui étaient à l'époque, je parle donc de la fin des années 60, des films qui passaient très régulièrement à la télévision, quand on passait encore des films en noir et blanc. Et c'était des films qui étaient frappants pour un enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends parfaitement les critiques qui sont faites aujourd'hui au film de Cocteau.
C'est mais oui, moi, c'est pas des critiques, c'est donc on relativise
voilà,
un peu.
Voilà. Relativise, mais il faut comprendre que, en fait, pour moi, la diction, par exemple, de Jean Marais, qui peut être effectivement aujourd'hui une barrière, elle fait partie intégrante du charme qu'a le film à mes yeux et à mes oreilles.
On l'a entendu d'ailleurs là.
Voilà.
Tout à l'heure, oui.
Et en fait, d'une certaine manière, je n'ai jamais cessé de regarder le film de Cocteau comme lorsque je l'avais vu jeune. C'est-à-dire qu'il a pu, évidemment, s'enrichir de significations, de symboles, etc. Mais d'une certaine manière, la façon dont je le regarde aujourd'hui n'est pas contradictoire avec celle avec lequel j'avais regardé quand j'avais 5 ans.
Ce que vous dites, Christophe Gans, me fait penser à ce que Miloš Forman disait des Liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos en disant on ne peut voir mon film, il parlait de Valmont à l'époque, on ne peut le voir que lorsqu'on a lu les Liaisons dangereuses adolescent. Il y a une sorte de double lecture. Et c'est vrai que ces très grands classiques du cinéma ne sont pas tout à fait les mêmes lorsqu'ils éveillent en nous des souvenirs d'enfance ou lorsqu'on les découvre ou redécouvre avec un œil plus ou moins neuf. Alors, vous avez choisi de vous inspirer non pas du conte pour enfants, qui est un petit conte qui fait 10-11 pages de Madame le Prince de Beaumont, mais de celui de Madame de Villeneuve. On est toujours au milieu du 18e siècle, on est toujours dans la même fantasmagorie, on va dire post-marivaudienne, mais avec, dans le cas de Madame de Villeneuve, une histoire beaucoup plus fouillée, beaucoup plus étoffée.
En fait, ce qui se passe, c'est que il faut connaître l'histoire de ces deux incarnations littéraires du conte. C'est-à-dire, la première est faite à l'usage des adultes et à l'usage, en plus, des adultes qui ont une certaine culture, puisqu'en fait, le texte de Madame de Villeneuve est très ouvertement une variation sur les Métamorphoses d'Ovide, qui est un texte admirable, qui raconte en gros comment...
À l'époque, on avait des humanités, hein, voilà. Donc on lisait les auteurs anciens.
Tout à fait, et qui raconte en gros comment les dieux viennent se mêler aux humains, non seulement pour leur jouer des tours, mais aussi pour les séduire. En particulier, on peut penser à Zeus prenant une forme animale, un cygne, un taureau, pour évidemment séduire les humaines. Et le texte de Madame le Prince de Beaumont est en fait un texte à l'usage d'enfants anglais qu'elle avait à sa charge, auquel elle apprenait le français, et elle a eu cette idée magistrale de prendre des contes et d'en faire un digest, d'en faire un synopsis parfait. Et je pourrais dire que le texte de Madame le Prince de Beaumont est un merveilleux pitch, en fait, du texte de Madame de Villeneuve. Mais quand on lit le texte de Madame de Villeneuve, on se rend compte, évidemment, de tous les niveaux de lecture qui abondent dans l'histoire et qui vont bien au-delà de la petite morale gentille qui consiste à dire on peut aimer au-delà des apparences. Ça, c'est, je dirais, le premier degré de lecture. Mais il y en a beaucoup d'autres.
Ce que je trouve extraordinaire dans votre travail, entre autres, mais c'est précisément ces prismes successifs temporels. Après tout, on fait une émission d'histoire ici. Moi, je suis très sensible à ça. Finalement, vous avez une première référence qui est une référence renaissante, celle de l'époque de la Bête, avec les costumes qui vont avec, etc. Vous avez l'esthétique qu'a pu en donner le début du 19e siècle, puisque vous situez les choses en 1810, hein, sous le Premier Empire, à la fin du Premier Empire. Et là, on a quelque chose qui est déjà presque pré-romantique. Et puis, vous avez un troisième prisme qui est justement, qu'on le veuille ou non, et vous le faites avec beaucoup de discrétion, mais c'est présent néanmoins, le prisme fantasmagorique de ce que les Bérard et Cocteau, etc., ont pu donner au milieu du XXe siècle. Et chaque scène est en quelque sorte la superposition des trois.
Exactement. Exactement. C'est-à-dire que c'était l'enjeu. C'est-à-dire que pour moi, adapter un conte de fées, c'était délibérément faire un film que les enfants regarderaient d'une certaine façon, mais que les adultes qui les accompagnent regarderaient d'une autre façon. Et en fait, tout cela me passionne, puisque je crois au cinéma absolu. C'est-à-dire, je suis encore quelqu'un qui regarde des films muets, qui regarde des films très anciens, et je pense que le cinéma, en fait, de par sa qualité, je veux dire, c'est de s'adresser, en fait, à chacun d'entre nous spécifiquement. Le cinéma n'existe pas comme un art, pour moi, de masse. Il existe, en fait, comme un art individuel. Il existe dans le regard de chacun de ses admirateurs. Et c'est vrai que le conte de fées est un genre très pur à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous pouvez vous adresser à plein de personnes de sensibilités différentes et leur offrir un spectacle qu'ils vivront chacun à leur manière, d'une manière intime.
Alors Cocteau avait mis l'accent sur laideur beauté, et pour cause, on peut dire que c'est vraiment l'axe qui détermine toute sa vie, toute son œuvre, il est passionné par ça.
Vous avez ce projet dans la Bête.
Ce projet totalement dans la Bête, évidemment, et pour cause d'ailleurs, à tout point de vue. Et par ailleurs, vous avez choisi, vous, un autre axe, si je puis dire, qui est plutôt humanité et nature, ou nature et culture.
Je regarde le couple formé par la Belle et la Bête comme en fait une métaphore en fait du rapport difficile entre la civilisation humaine et la nature. C'est-à-dire les contes de fées, et c'est là où le texte de Madame de Villeneuve en fait m'apporte des bases intéressantes. Les contes de fées sont en fait les retranscriptions judéo-chrétiennes des vieilles légendes antiques que les Grecs et les Romains aimaient à se raconter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que ce qui fait la retranscription de ces contes au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est en fait l'idée que le part de divin n'est plus dans la nature, mais dans l'homme.
Et voilà.
Et évidemment, moi, personnellement...
On a capté le divin.
On a capté le divin. Et ce qui me plaît dans mon adaptation, ce qui m'excitait à faire, c'était de redonner à la nature son caractère divin. Et de montrer enfin pourquoi le prince est transformé en bête, puisque c'est une partie extrêmement importante qui est toujours esquivée.
Je crois que vous venez de donner la clé. C'est étonnant ce regain des contes et des contes de fées au cinéma en ce moment, Bruno Kras, je pense à Tim Burton,
moi,
à d'autres.
Moi, ma petite explication, même si vous me prenez à chaud, ma petite explication, c'est que j'ai réfléchi sur Harry Potter, sur Seigneur des Anneaux, c'est que on a une époque où quand même les parents racontent moins aux enfants les contes, comme on le faisait nous à notre époque, à ma génération, où vraiment les enfants étaient bercés par tous les contes de Perrault, d'Andersen et autres, et c'était une façon aussi d'exorciser les peurs des enfants.
Et comment, bien sûr.
Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ben, les contes pour enfants, c'est Harry Potter, c'est le Seigneur des Anneaux. À notre époque, plus que jamais, les enfants et les jeunes adultes et les adultes ont besoin de rêver et de s'évader. Et le cinéma doit avoir cette fonction-là et, à mon gré, ne l'a pas assez souvent.
Alors, nous aimons beaucoup, Bruno Kras, tout ce qui est scénario, construction, etc. On en parle parfois dans les couloirs d'Europe 1, ça nous fait des conversations passionnantes. Mais ce qu'il y a peut-être de plus extraordinaire dans le cinéma, ça reste quand même la construction cinématographique, ça reste les trucages, les décors, les costumes, enfin toute cette machine, comme disait tout à l'heure Jean Cocteau. Comment a été fabriqué ce film? J'espère que Christophe Gans, dans un instant, va nous donner quelques secrets de tournage.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film La Belle et la Bête, film dont nous sommes partenaires sur Europe 1, qui sort le 12 février. Et pour en parler cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez le réalisateur Christophe Gans, ainsi que notre critique cinéma Bruno Kras.
Oui Céline, et dès demain, 9h moins le quart, vous retrouverez Léa Seydoux et Vincent Cassel chez Nikos Aliagas, ils seront ses invités. Et vous retrouverez André Dussolier mardi prochain, le 4, dans l'émission du copain Cyril Hanouna, Les Pieds dans le Plat, dès 10h30. Alors, j'ai promis à nos auditeurs, Christophe Gans, que vous alliez nous raconter un peu comment ça se passait sur le plateau même. Ce qu'il faut peut-être commencer par dire, c'est qu'une grande partie des scènes a été tournée sur ce qu'on appelle le fond vert. C'est-à-dire que les décors ne sont pas là, en place, et qu'il faut que les comédiens les imaginent d'une certaine manière.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, à part quelques scènes situées dans des décors récurrents, c'est-à-dire des décors à travers lesquels on passe souvent dans le film, comme la grande salle à manger ou la chambre de Belle, en fait, tout le reste a été fait à minima. C'est-à-dire parfois en construisant les points de contact, c'est-à-dire l'endroit où les acteurs ont leurs pieds, où ils peuvent éventuellement s'accouder, ou alors carrément tourner entièrement sur de la moquette verte, comme par exemple le domaine de la bête, avec ses grandes herbes, etc., qui a été entièrement recréé donc ensuite dans l'ordinateur.
Est-ce que pour vous, ça n'est pas une contrainte au moins autant que pour les acteurs? C'est-à-dire que vous avez dans la tête ce que ça va donner
Oui, d'abord le film est entièrement prédessiné. Il est dessiné.
Il y a un storyboard, comme on dit.
Voilà, il y a un storyboard qui comprend à peu près, dans le cas présent, 2000 dessins. Mais il y a également des grandes peintures de production qui mettent en couleur certaines planches de ce storyboard, qu'ils appellent un color script, un peu comme en dessin animé, et qui permet de restituer la chroma et les lumières du film. Et puis, évidemment, il y a des prévisualisations, comme par exemple la scène qui comporte des géants à la fin, qui a été entièrement prévisualisée. Et quand j'arrive en fait sur le plateau, d'une certaine manière, j'ai un rapport assez pur avec les acteurs, comme si je montais en fait sur une scène de théâtre pour diriger des acteurs de théâtre, puisque d'une certaine manière, ils doivent, simplement par leur présence, par l'incarnation, par leur regard, rendre compte d'un univers qui ne sera rajouté qu'après.
Et oui, c'est ça. Alors, ils ont quand même les costumes pour les aider.
Ils ont les costumes, ce qui est pour moi le minimum qu'on peut donner à un acteur pour qu'il se mette dans la peau du personnage. Mais dans le cas de Vincent Cassel, il était entièrement
alors
en costume,
oui.
Sauf la partie qui est de la lèvre inférieure jusqu'au sourcil, qui elle était libre. Donc en fait, Léa jouait avec Vincent maquillée en bête, sauf ce morceau du visage qui était bien celle de Vincent, en attendant qu'on mette le masque en post-production.
Ah c'est ça. Et donc le masque est incrusté en fait. C'est ça.
En fait, c'est très
simple.
C'est-à-dire que le computer. Souvent, il y a un débat sur les effets spéciaux. On dit que les effets spéciaux cassent en fait la beauté artisanale des effets spéciaux numériques, cassent la beauté artisanale des vieux effets spéciaux. Mais dans le cas présent, en fait, c'est un plus grand confort pour l'acteur, puisque au lieu d'être enduit de colle comme le pauvre Jean Marais, qui a d'ailleurs développé un eczéma géant à cause de ça, et ben en fait simplement le masque qui a été créé par des petites mains qui ont implanté ces milliers de poils qui le constituent ne sera rajouté qu'après, c'est-à-dire que d'abord il ne sera pas épais, il sera de l'épaisseur d'une peau et il sera appliqué parfaitement sur les expressions faciales de l'acteur sans pour autant les cacher. Donc en fait c'est tout bénef pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on gagne du temps, l'acteur n'est plus enduit de colle et à l'arrivée évidemment c'est impeccable au niveau du jeu de l'acteur.
Oui, on a un jeu d'ailleurs chez Vincent Cassel, et pour cause, beaucoup de temps à passer, mais qui est très libre, si je puis dire, très détaché par rapport à ce que pouvait être le jeu de Jean Marais en 1945.
Hein. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, et très sobre. En plus, il a pas été choisi par Christophe Gans par hasard, d'abord parce que c'est un des acteurs fétiches de Christophe Gans, on se souvient du Pacte des Loups, et puis parce que moi, dès que j'ai su que c'était Vincent Cassel, je me suis dit, voilà un acteur physique, quoi. Vincent Cassel, il représente quand même quelque chose de viril, de costaud. On sait que c'est un danseur. On l'a vu faire des casses dans Ocean's Eleven et passer sous les rayons lasers. Voilà. Et donc, on se dit, c'est vraiment la bête. Et c'est vrai que le fait que les poils étaient rajoutés comme ça en numérique, ça lui laisse des expressions. Et c'est Vincent Cassel. Enfin, on le devine quand même derrière le masque.
Vous avez tourné dans les studios de Berlin, ça c'est
extraordinaire. C'était une grande émotion pour moi, alors c'est une émotion peut-être qui ne dira rien aux plus jeunes, mais...
Sauf s'ils sont cinéphiles.
Sauf s'ils sont très grands cinéphiles, c'est comme moi, c'est-à-dire que j'ai tourné précisément sur la dalle de béton qui a vu le tournage de films comme Métropolis, L'Ange Bleu ou Les Nibelungen. Donc le soir, je restais parfois, ça m'est arrivé, c'est la part mélancolique de ce que je suis, je restais sur le plateau et j'essayais de voir si peut-être le fantôme de Fritz Lang était par là, quelque part par là. Derrière les décors, mais c'est vrai que tourner dans cet endroit mythique,
les studios de Babelsberg,
voilà, ça a animé le film. C'est vrai que le film porte en lui à la fois les nouvelles technologies, mais porte en lui aussi tous ces souvenirs d'enfants que j'ai et qui en fait ont trait à un cinéma aujourd'hui révolu.
Et ce cinéma allemand des années 20 est un cinéma fantastique justement, hein, c'est
évidemment,
ça.
Hein, c'est un cinéma fantasmagorique.
Fantasmagorique, voilà.
Absolument. Et c'est un cinéma dans lequel les gens se posaient certainement les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui avec des effets évidemment beaucoup plus technologiques, mais ils se sont posés les mêmes questions qui est celle, à mon avis, de l'incarnation. C'est-à-dire à quel point les acteurs sont utiles pour précisément incarner ces paysages qui sortent de notre imagination.
Eh oui. Il faut que les acteurs la viennent au secours de la technique. Hein, quand c'est, même.
Sans acteurs, sans par exemple ce que fait Léa dans le film ne serait qu'un livre d'images. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il faut croire au personnage de Belle, il faut croire au personnage de la bête pour que cette histoire prenne vie.
De ce point de vue, vous vous démarquez de ce que Hitchcock dit dans Hitchcock Truffaut, justement, où lui, il a tendance à diminuer un peu le rôle des acteurs.
Oui, je crois que ça dépend en fait des projets. Je crois que la grande vedette des films d'Hitchcock, c'est Hitchcock. Et je crois que quand on fait La Belle et la Bête, ce qui est très important, c'est la force de conviction des acteurs et, dans mon cas, ma propre force de croyance pour que tout ça s'anime sans que j'ai recours ni à l'ironie ni au second degré. C'est-à-dire, c'est en puisant dans ces impressions que j'avais quand j'étais enfant, que j'ai pu mener à bien cette entreprise.
Oui, ce fantastique, ce féerique, cette fantasmagorie qui vous habite, ce sont bien des vestiges de l'enfance, on est d'accord.
Ce ne sont que des vestiges de l'enfance. Ouais. C'est un processus fondamentalement mélancolique.
Et oui, bien sûr. Avec une mélancolie hyper créative et qui quand même est bourrée de dynamisme. Il faudrait surtout pas que nos auditeurs s'imaginent que le film tire du côté de la nostalgie ou d'un côté sépia comme ça, qu'il n'a pas finalement.
Je crois d'une manière ou d'une autre que ce qui fait la sensibilité d'un film comme celui-là, c'est très certainement tous ces souvenirs d'enfant que j'y mets. Mais évidemment, pour moi, le public d'aujourd'hui, il a l'habitude des jeux vidéo, il a l'habitude d'univers virtuel, l'habitude d'univers en 3D et les choses ne sont plus à plat aujourd'hui. Elles ne sont plus en 2D, elles sont aujourd'hui virtuelles.
Et d'ailleurs, vous aviez l'intention au départ de tourner un Fantomas, donc on est toujours dans ce...
Je suis fasciné par l'idée de transporter une culture qui pourrait sembler révolue dans le 21e siècle. C'est ça qui m'intéresse personnellement. C'est de me dire comment est-ce qu'on peut confronter tout ce qui constitue en fait notre inconscient collectif et comment le transporter, le rendre séduisant pour les gamins d'aujourd'hui, pour qu'à nouveau eux-mêmes le transportent à travers le siècle qui arrive.
Est-ce que par moment les acteurs avaient du mal parce que eux aussi qu'il faut qu'ils s'habituent à ces nouvelles techniques?
Alors Vincent avait beaucoup tâtonné pour La Bête, et il tâtonnait d'autant plus qu'il savait qu'en fait sa performance ne serait pas captée vraiment sur le plateau, mais serait captée dans un second temps avec de multiples caméras, parce qu'il a dû rejouer son rôle en fait pour qu'on ait en fait une version 3D de son visage sur lequel plaquer le fameux masque. Bon, tandis que Léa, elle est arrivée et s'est tout de suite mis de plein pied dans le bain. Et une chose que je ne savais pas quand j'écrivais le rôle pour elle et que ensuite je lui ai proposé le film, c'est qu'elle était très habitée par l'idée des contes de fées et très habitée par La Belle et la Bête.
C'était une bonne surprise, ça.
Ça fait partie de ces coïncidences. Et il est clair que quand elle est arrivée sur le plateau, alors qu'elle est connue pour être une actrice de films d'auteur, j'ai vu arriver vraiment le personnage de contes de fées. Elle était complètement transfigurée et elle s'est mise instantanément dedans. Le tournage, curieusement, quand on regarde le film, on peut imaginer que ça a été très complexe. Eh ben non, grâce à mes acteurs, en fait, ça a été certainement le film le plus simple que j'ai jamais tourné.
Ah, ça, c'est un bel hommage, on peut dire. Il y a, alors, Léa Seydoux s'inscrit, elle, dans une lignée infinie de toutes les belles du cinéma. Finalement, le cinéma n'est qu'une histoire de belles, on pourrait presque c'est dire vrai. Ça, Bruno Kras. Le monstre, lui, en revanche, est une figure plus rare. Je pense à Elephant Man, je pense, il y a eu quelques monstres du cinéma, mais pas tant que ça. Et pourtant, il y a bien là un rapport avec la dimension initialement foraine du cinéma. Hein. On montre des phénomènes, d'une
Absolument,
certaine manière.
C'est vrai, vous citez Elephant Man, mais c'est vrai qu'avec le retour de ces films fantastiques, on voit de plus en plus, je citais tout à l'heure Harry Potter et oui. Le Seigneur des Anneaux, on voit de plus en plus de monstres. Mais à propos des acteurs, je voudrais citer une anecdote que je tiens de Christophe, c'est que un homme comme André Dussollier, alors que je demandais à Christophe, alors lui il est de la vieille école, André Dussollier, le théâtre, la Comédie Française, etc. Et le conservatoire en tout cas, je sais pas s'il est passé à la Comédie Française, eh bien il a eu quand même le talent et l'imagination dans des scènes où par exemple la neige devait tomber sur lui et les flocons toucher son visage, de les imaginer et de jouer
de faire
presque sentir la peau qui frissonne quand le flocon tombe sur la peau. C'est vrai, Christophe.
C'est absolument vrai. Oui, j'étais fasciné par ça, de voir comment il avait réussi à créer des petits tics sur la surface de sa peau, sur lequel j'ai pu inscrire ensuite des flocons en synthèse.
Ça, alors là, chapeau, bravo. Merci beaucoup, Christophe Gans, d'être venu nous parler de La Belle et la Bête. Et puisque nous avons longuement parlé de Jean Cocteau dans la première partie de cette émission, je voudrais vous rappeler, je crois que je l'ai déjà cité, la publication chez Michel de Maulle de ce très bel album qui s'appelle Les Murs Tatoués. C'est sur ces fresques étonnantes dont Jean Cocteau avait littéralement couvert la villa Santos Ospire sur la Côte d'Azur, cette villa qui était celle de Francine Vesveler, et c'est sa fille Carole Vesveler qui présente ce livre, qui présente cette œuvre incroyable à la dimension d'un château, disons, avec des photographies de Suzanne Held. Jean Cocteau, donc, Les Murs Tatoués. Merci beaucoup.
sur Europe 1 un extrait de la bande originale du film La Belle et la Bête, réalisé par Christophe Gans, film Europe 1 qui sort le 12 février. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Romain qui aimerait savoir pourquoi est-ce qu'on mange des crêpes à la Chandeleur.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Romain de Dijon, qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1, qui vous demande pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ?
Oui, la Chandeleur, c'est cette fête du 2 février, c'est donc dimanche prochain, à l'occasion de laquelle on déguste de délicieuses crêpes. Alors, comme bien souvent, vous savez, il s'agit au départ d'une fête païenne qui a été récupérée par l'Église. À Rome, autrefois, on parlait de la fête des Lupercales. C'était vers la mi-février, c'était une cérémonie qui symbolisait le renouveau, le retour de la vie et du soleil. Et à cette occasion, le peuple réalisait des sacrifices pour ses dieux. On mangeait des galettes de céréales parce qu'elles étaient rondes, dorées, et qu'elles rappelaient la forme et la couleur du soleil. Après la chute de l'Empire romain, l'Église catholique va transformer ces rites païens en célébrations religieuses, et c'est de là que va naître la fête des chandelles, des lumières, d'où ce nom de chandeleur, qui est la dernière étape du cycle de Noël. Elle a lieu exactement 40 jours après la naissance du Christ, c'est un rappel du jour où Marie présente l'enfant Jésus pour la première fois au temple de Jérusalem. Au Moyen-Âge, la Chandeleur est célébrée de façon officielle et comme souvent à cette époque, un certain nombre de superstitions, de traditions vont s'attacher à la fête. C'est à ce moment-là qu'on reprend le rituel, le vieux, l'antique rituel des galettes de céréales, mais cette fois il s'agit bien de crêpes, la crêpe telle qu'on la connaît, qui est arrivée avec la farine de froment qui arrive d'Asie au XIIIe siècle. Alors, on faisait des crêpes à ce stade de l'année, on ne savait pas exactement quelles étaient encore les réserves de froment. Et donc, dans la mesure où il restait suffisamment de farine, eh bien, on faisait des crêpes. Les plus superstitieux s'assuraient une bonne récolte et la prospérité en faisant sauter la première crêpe de la main droite tout en serrant de la gauche une pièce de monnaie. Idéalement, c'était un louis d'or. Et après, on plaçait la crêpe en question sur le dessus de l'armoire dans la chambre et le louis d'or à l'intérieur de l'armoire. Et comme ça, on était assuré d'avoir pour l'année qui venait une très belle et très bonne récolte.